on va commencer par Louis. Déjà, bonjour à tout le monde. Toi, quelles étaient tes attentes par rapport au match d'hier, en sachant qu'on peut penser que l'OL n'est pas à sa place par rapport aux dernières performances? Ouais, qu'attendais-tu de ce match?
Bah moi, je m'attendais à plein de choses parce que j'avais adoré le match de Nice. Je trouve que Comboiré est retrouvé par rapport à ce qu'il nous avait fait à la fin de l'année dernière. Je trouve qu'il est complètement différent. Il parle de jeu, il parle voilà, d'aller de l'avant. Il met des choses en place qui sont super intéressantes. Donc je m'attendais exactement au match qu'on a fait en première mi-temps, on va dire, qui était vraiment assez plaisant. Après la suite, on est la pire équipe, je crois, de Ligue 1 en deuxième mi-temps. Je ne sais pas si c'est physique ou mental, il y a une petite déflagration de l'équipe au niveau de la deuxième mi-temps, avec en plus des problèmes un peu arbitrales. Donc il y a un tout qui fait qu'on s'écroule en deuxième mi-temps. Mais si la première mi-temps, on la réitère jusqu'à la fin de la saison, pour moi, Antoine Comboiré réussira à nous maintenir.
D'accord. Donc on était dans la continuité de Nice, donc avec trois mi-temps sur quatre avant l'entame de la dernière mi-temps sur les deux matchs qui a été plus problématique, hein, si je suis ton analyse.
Ouais, c'est ça. Hein. Franchement, la première mi-temps était très plaisante et vraiment dans la continuité de Nice. Je trouve que franchement, on a un Nantes qui est complètement différent de Jocelyn Gourvennec. Antoine Comboiré a réussi à faire des choses assez intéressantes avec cette équipe. Et c'est vraiment dommage que cette deuxième mi-temps vienne ternir tout ça parce que franchement, moi, j'y croyais clairement qu'en première mi-temps, qu'on pouvait revenir avec 3 points et quasiment se dire, OK, on est quasiment maintenu à la fin du match, quoi.
D'accord. Toi, Kylian, est-ce que tu avais des attentes assez fortes comme Louis, notamment dans la continuité du match de Nice?
Bah du coup ouais, un peu comme Louis, j'avais beaucoup aimé le match contre Nice. Donc j'ai vu la première période contre Lyon hier et j'étais conquis en vrai parce que les plus grosses occasions, bah c'est Nantes qui les avait. On a ouvert le score et puis ensuite il y a eu les occasions d'Ablin et de Mohamed notamment. Donc pareil que Louis, j'avais pas mal d'attentes. J'ai trouvé la première période très 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 consistante, très très bonne. Et puis après, bah, en deuxième période, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que Lyon a pu revenir. Et puis, je pense que t'en parlais à l'instant, tu parlais de mental. Je pense que le carton de Lacazette, un peu litigieux, ça a beaucoup joué dans
Bon, on
les
y
têtes et les
reviendra,
joueurs se sont écroulés.
on y reviendra. Ok, Gwen. Salut Gwen.
Salut, ça va? Désolé pour le retard, j'arrivais
Il
pas à
n'y
vous
a pas de
entendre.
souci, ouais. Je te posais la même question qu'à Louis et à Kylian. Tes attentes avant le match, Louis et Kylian disaient qu'il y avait pas mal d'attentes par rapport à la continuité espérée du match face à Nice. Et ça s'est retrouvé sur la première mi-temps. T'es en phase avec ça?
Ouais, mais après, si tu te rappelles bien, moi j'avais dit qu'on aurait perdu contre Lyon. Sincèrement, j'étais tellement content de me tromper en fin de première, où je me suis dit, putain, en fait, c'est carrément fun de les voir jouer comme ça contre Lyon. Je trouvais que, enfin là, j'ai entendu la fin de ce que disait Louis. Je suis un peu d'accord avec lui. En fait, moi, je me suis dit, c'est jouable de prendre les 3 points. Par contre, faut enquiller un deuxième, en deuxième mi-temps. Moi, c'est ce que je me suis dit.
D'accord. Par rapport à la compo, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que pour toi, c'était une bonne idée de maintenir le 11? Ou bah c'est facile de le dire après match, vous me direz. Ou au contraire, fallait essayer d'impliquer plus de joueurs en partant du postulat suivant, c'est qu'on n'arrivera pas à se sauver qu'avec 11 joueurs.
Bah en fait, oui, tu me poses la question à moi, on est d'accord.
Oui, vas-y, Gwen, vas-y. Ouais.
Ok. En fait, moi j'ai trouvé que c'était bien de reconduire l'équipe qu'on a eue contre Nice. Après, sincèrement, j'ai trouvé que nos entrants, notamment en deuxième, et je le dis depuis longtemps, je trouve que nos entrants sont des remplaçants à réaction. Là-dessus, je suis pas trop d'accord avec Antoine sur le fait qu'on n'est pas à l'extérieur, on est chez nous. On se fait avoir à chaque fois, en fait. Donc, quand je tire qui est rentré, c'était plus le même match.
Ouais, tout à fait.
Et
Ouais.
nous, nos
Et
entrants
toi?
ont été
Ouais.
fantomatiques. Faut le dire.
Et toi, Louis, est-ce que tu penses que ça n'aurait pas été une bonne idée? Bon, encore une fois, c'est facile rétrospectivement de le dire, d'essayer de mettre dans le moule des joueurs qui avaient gagné à Nice, de faire un ou deux changements sans bouleverser grand-chose. Est-ce que ça aurait été une bonne idée pour toi?
Non, 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 il avait une bonne équipe à Nice. Moi, je comprends. Il y a de la... Moi, je prône un peu la cohérence, la continuité. Les joueurs étaient bons. Si tu te sens rien du 11 contre Nice, tu lui envoies quoi comme message? Chaque fois que tu fais une bonne prestation, tu es remis en question. Pour moi, c'était normal. Le problème, encore une fois, effectivement, c'est les entrants. En commençant, on y reviendra par Zézé. Là, c'est là que tu te rends compte qu'il faut 11 vraiment bons joueurs pour tenir ce genre de match contre Lyon, parce qu'il suffit d'un petit point faible ou un joueur qui n'est pas dans son match le soir même, et ça peut vite s'enrayer. Là, c'est vraiment ce qui nous a posé problème, qu'on n'ait pas vraiment 11 voire 14 joueurs au haut niveau. Quoi.
D'accord. Je vais te reposer la question. C'est vrai qu'ils n'ont pas trop développé ma thèse, là, Kylian, les deux intervenants précédents. Pour moi, on ne pourra pas se sauver à 11. C'est pour ça que j'aurais imaginé peut-être mettre un Benny Traoré à la place d'un Mollet, ou un autre joueur, Comert, par exemple, avait été en difficulté du côté de Nice. Moi, j'aurais peut-être mis Zézé d'entrée de jeu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça?
Bah, par rapport à ça, je suis un peu d'accord avec Louis. Je pense qu'il y avait eu une très belle performance de toute l'équipe collectivement contre Nice. Et donc, je voyais pas l'intérêt pour Antoine Comboiré de changer. Il y avait eu beaucoup de certitudes, notamment avec Mathis Sabline qui avait retrouvé la confiance. Après, il y aurait pu avoir éventuellement quelques changements. Tu parlais de Benny Traoré à la place de Mollet. Mollet, hier encore, il y a eu plusieurs mauvais choix dans ses passes, dans ses actions, donc je pense qu'il y aurait pu y avoir quelques changements. Et puis, Kemert, Zézé, il y aurait eu la solution de mettre Zézé en début de match. Après, je me dis que Nicolas Pallois, dans les gros matchs comme ça, avec un gros vis-à-vis comme Alexandre Lacazette, aurait pu aussi être intéressant. Et quand on a vu le mauvais début de match de Kemert et la suite un peu plus compliquée de Zézé, on aurait pu se poser la question, je pense.
Bah, je pense que par rapport à Comert, je vais rebondir avant de laisser intervenir Louis. Comert, je crois que sur la première action du match, il loupe une passe et je pense que ça a plombé son match. Après, il se blesse sur un geste un peu moyen de Lacazette, même si ce n'est pas volontaire, qu'il le déséquilibre pour que son genou soit en porte-à-faux. Ouais, Louis, tu voulais rebondir?
Non, mais au-delà de ça, après, c'est une question qui est ouverte, enfin, je suis ouvert au débat, mais même au-delà de ça, est-ce que vous changez l'équipe pour le prochain match? En fait, tout simplement, moi, honnêtement, je ne pense pas que les 11 titulaires soient entre guillemets, hein, les fautifs de cette défaite, les responsables. Même moi, Mollet, je trouve qu'au-dessus de son premier mi-temps, il fait plutôt un très bon match. Il pose une galette sur Abline. Enfin, c'est quand même un joueur qui a été décisif. Au-delà de ça, moi personnellement, ça me choquerait pas que Comboiré mette exactement la même équipe au prochain match.
D'accord. Donc moi, ma théorie que j'essaie de vous faire porter en disant qu'on n'arrivera pas à se trouver qu'avec 11 joueurs, ça adhère pas trop, quoi.
Bah si, mais je sais pas si on les a les autres quoi. Pour moi là, ces 11 joueurs là sont quasiment les meilleurs, peut-être Benny Traoré, mais le D'accord. reste, moi, pour moi, par exemple Zézé, tu vois, c'est pas forcément au niveau encore, tu vois, t'as d'autres joueurs comme ça, Moutou Sami, Bamba, bon voilà, c'est plus léger, quoi.
D'accord, ok. Kylian.
Oui, bah c'était pour rebondir à ce que venait de dire Louis, justement. Je suis totalement d'accord que l'équipe proposée, le 11 de départ, était vraiment celui qui avait fait une bonne performance et celui qui a fait une très bonne première période. Donc je pense pas qu'il y aurait beaucoup de choses à changer pour les prochains matchs, parce que c'est vraiment un schéma tactique, une équipe qui a donné satisfaction. Après, à voir avec la blessure de Kemert, qui c'est qui en profitera, si c'est Zézé ou bien une autre solution comme Pallois ou peut-être Duverne, on ne sait pas, sur les prochaines rencontres. Mais il faudra avoir les changements qu'apportera Comboiré pour les prochains matchs.
D'accord. Sly, salut, tu nous rejoins. Bonsoir.
Oui, bonjour Didier, bonjour à tous.
Salut Sly. On se projetait déjà un peu par rapport à la suspension de Comert. Je pense que ton sentiment, toi, tu vas juste nous dire en quelques mots tes attentes par rapport à ce match, et puis enchaîner sur Comert, qui pourrait le remplacer au Havre, s'il te plaît.
Les attentes pour le match d'hier, on est d'accord, hein. Je suis un peu d'accord avec tout ce qui s'est dit là. Suivant le théorème, pourquoi changer une équipe qui gagne, bon, remettre les mêmes, moi ça, je trouvais ça logique de la part de Comboiré. Bon, restait à savoir s'ils allaient jouer de la même manière, mais c'était le cas, hein, avec un pressing haut sur l'adversaire, avec aussi comment Moussa Sissoko en 10 quasiment là, qui était très haut. Donc, ça me paraissait logique. Et puis, sur ce qui a été dit aussi sur le 11 de départ, ouais, bon, moi, je reste un fervent des supporters de Traoré qui a ma préférence à Mollet. Et là, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le Traoré ne rentre qu'à la 85e, quoi. Ce que je disais déjà la semaine dernière, quand l'équipe adverse fait des changements hautement stratégiques, comme Nice l'a fait en faisant rentrer trois gars à la 60e, et puis là, comme l'a fait Sage en faisant rentrer notamment Cherki pour redonner plus d'attaque, je pense qu'on aurait dû faire tourner aussi plutôt de notre côté. Mais moi, j'aurais bien aimé voir Traoré. Et ta question pour
Et Chomert, ça. Ouais,
Chomert pour le match, le prochain match, hein, c'est ça?
Ouais, tout à fait, ouais.
Qui pour remplacer Chomert? Ben moi, je trouve que Zézé, il est quand même à la hauteur de l'événement s'il se fait pas bousiller par la Cazette, qui doit plus être sur le terrain à la 52e, si je me rappelle bien. Donc moi, Zézé, il a fait des bons matchs hein, sous Gourvennec. Et puis bon, parce que Palois, bon, on sait qu'il est moins mobile maintenant. Il est Palois, il fait une grosse performance quand on joue à 5 derrière, où il fait un peu l'électron libre, il joue libéraux à l'ancienne et il intervient pas mal. Il lit bien le jeu, Palois il lit très bien le jeu, quoi. C'est son atout principal. Mais bon, sur les courses, il est moins rapide que Zézé notamment. Donc moi je ne serais pas partant en plus pour un Zézé. S'il est remis.
Il faudra quelques points de suture, sinon il jouera avec son bonnet de bain. Hein. Donc le déroulé de la première mi-temps, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Toi, Gwen, comment tu expliques ce qu'on peut appeler le traumatisme des secondes mi-temps, qui a encore frappé hier?
Oh là, putain, c'est une question. Moi, j'ai trouvé qu'on avait une deuxième mi-temps avec des poissons-chats. Tu vois ce que c'est, les poissons-chats?
Bah, redéfinis. Hein.
Bah, le poisson-chat, c'est un poisson, mais qui sert à rien, quoi. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il est pas spécialement beau, machin. Bah, nous, en fait, c'était un peu ça, notre deuxième mi-temps. Une mi-temps de poisson-chat. C'est-à-dire, on n'a pas fait grand-chose. Et nos entrants, c'est zéro mental. Enfin, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, quand Cherki est rentré, Sly l'a très bien dit. Alors c'est pas uniquement un truc d'attaque, mais un truc de distribution. Cherki, en fait, quand il arrive, t'as l'impression qu'il est dans une position uniquement de 10, mais putain, t'as l'impression que les mecs c'est des moteurs à friction, quoi. Ils sont pleins de balles, les mecs, tu vois. Sur la deuxième, en fait, faut pas oublier qu'ils jouaient à l'extérieur, qu'il fallait qu'ils reviennent au score parce que ils veulent quand même aller chercher l'Europe, hein, faut pas se tromper. Mais nous, en fait, putain, mais moi, ça fait longtemps que je le dis, mais quelle ambition on a, quoi. Là, tu vois, Bamba, le mec demande à avoir du temps de jeu. Moi, je l'aime bien, Bamba, en fait. Il n'est pas méchant, tu vois. Et t'es là, putain, mec, mais qu'est-ce que tu branles? Tu vois, c'est Bamba, il fait plus attention à sa coiffure, à son style, tu vois, avec un espèce de bandana. Mais on s'en branle, en fait. Mais mec, vas-y, galope et montre ce que tu sais faire, quoi. Et puis après, Moutoussamy, complètement transparent, Coco, tu dis, mais putain. Donc là, en fait, qu'on ne s'étonne pas, et ça va revenir avec ce que tu disais, Jean-Charles, qu'est-ce que tu veux qu'on mette en dehors des mecs qui étaient alignés là, à Nice par Camboiré et ceux qui étaient là en début de match? À part, voilà, je te dis, Zézé, la question ne se pose pas trop, je pense. Moi, j'aime bien Zézé. Après, la boucherie lyonnaise là, d'hier soir, les mecs, ils font toujours les mêmes matchs. Moi, Lyon, je ne peux pas les encadrer, de toute façon. Je me suis chauffé avec des mecs sur Twitter.
On l'a bien compris.
Mais non, mais tu vois, en fait, à un moment, la Cazette, il ne faut pas oublier, les gars, hein, il a fait trois fautes. Donc, une sur Comert, où Comert, en fait, il sort. Ça fait déjà un joueur de Nantes en moins. Bon. Après, il monte sur le pied voilà, où c'était peut-être après même le coup qu'il a mis à Zézé.
Voilà. Alors, c'était
même
en
lui,
première
en fait,
mi-temps. C'était en
tu vois, même lui, il a reconnu qu'il pensait qu'il allait le prendre un rouge. Tu vois. Et bilan de l'opération.
Sur l'arbitrage après. Mais bon,
ce que je veux dire, c'est, sans parler, je te dis, d'arbitrage, c'est juste qu'en fait, c'est plus le même match. Tu vois, c'est plus le même match. C'est pour ça que nous, je pense qu'on n'a pas le mental. On s'est fait un peu berner, ce qu'a dit Castelletto, il l'a très bien dit. On s'est fait berner comme des merdes par les mecs de Lyon, là. Voilà, moi, je les porte pas dans mon cœur. Mais c'est vrai qu'après, je trouve que notre deuxième mi-temps est à l'image de notre classement. C'est-à-dire...
Et de la saison, d'une certaine façon.
Ouais, bah, je te dis, on est en mode poisson-chat. Le truc est un peu bizarre, mais tu vois, sincèrement, tu dis, mais putain, moi, c'est ça qui me gêne le plus. C'est-à-dire, tu vois, Moutoussamy, on dit tout le temps, ouais, le mec a plein d'envie, il essaie de faire ce qu'il peut, il court partout, machin. Ouais, mais mec, tu je te dis, il est dans une position de poisson-chat, quoi. C'est-à-dire, il sait pas où il va, tu vois, ça tape dans les vitres, bon, c'est un peu... ça m'a surpris, en fait, de voir nos entrants pour ce type de résultat, en fait.
Bah, c'est plutôt un peu négatif ce que je veux dire, mais on aura besoin de plus de 11 joueurs, quoi, parce que les matchs.
Mais tu mets qui ?
J'ai deux idées, j'y viendrai plus tard, mais on va déjà continuer le tour de table par rapport à ce fameux traumatisme. Comment on peut faire ? Est-ce que tu as une idée, Louis, pour essayer de contrecarrer ça, quoi ?
Mais pour moi, je pense, c'est qu'une supposition, j'en sais rien, mais il n'y a pas de traumatisme. Pour moi, il y a juste. Allez, 11, 12, allez, 13 joueurs qui ont le niveau vraiment, mais un bon niveau Ligue 1, hein, vraiment un niveau milieu de tableau, voire milieu haut de tableau, ce qui nous montre des matchs de Nice sur la première mi-temps contre Lyon, et on a, pourtant, ils mettent quand même du fric, un minimum dans du recrutement, il y a quand même des mecs qui viennent, mais bon, c'est très très mal utilisé, quand tu vois que Duverne prend 1 million de primes à la signature, enfin bref, c'est lunaire, c'est que sur le banc, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, pour moi. Tu regardes le banc, là, si on en parle vite fait, Moutoussamy, Coco, Duverne, Zézé qui fait un match moyen, pour pas dire Kata, Palois, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire ? Au final, on n'a finalement pas un banc qui est stratosphérique, ce qui fait qu'effectivement, il y a un gros contraste entre la première et la deuxième, tu vois. Donc pour moi, le
seul
c'est de faire le dos rond, tu vois. On ajuste.
Ouais, j'entends ce que tu dis, mais le fait de pas de justement de les impliquer un peu plus, c'est-à-dire dans les mettant dans le 11 titulaire ou de les faire rentrer plus tôt. Quand tu fais rentrer un gars à la 85e, tu peux pas lui demander la lune. Quand tu fais rentrer un gars à la mi-temps ou que tu le fais débuter ou que tu le fais rentrer à la 55e, ça a pas le même visage. C'est-à-dire que moi, il y a deux joueurs, c'est ce que j'ai noté, hein, dans la gestion des joueurs, je pense qu'on est unanime, de Traoré avec plus de minutes. Et Moutoussamy, moi, on se souvient que je n'ai pas été un grand fan de joueurs, mais Moutoussamy, pour moi, il était revenu de la CAN avec un niveau de jeu qui était relativement bon, quoi. Donc, je sais pas, moi, je pense qu'on a besoin d'intégrer plus de joueurs à la rotation, quoi.
Moi, pour Traoré, je suis d'accord avec toi. Pour Kadewere aussi. Tu vois, un joueur comme Ganago qui reviendra aussi. Mais après, tu sais ce que je t'ai toujours dit. Hein, pour moi, on ne change pas un âne en cheval de course en 3 semaines. Pour moi, voilà, que Coco, tu le mettes dans le 11 ou pas dans le 11, il sera toujours mauvais, quoi. Donc, à la limite, oui. Moutoussamy, tu n'as pas tort. Tu vois, c'est vrai que bon, c'est des joueurs parfois qui montent des choses. Pourquoi pas ? Mais globalement, quand même, pour moi, ce n'est pas parce que tu les mets avant qu'ils seront meilleurs. Pour moi, il y a 2-3 joueurs qui ont le niveau, comme tu les as cités là. Et le reste, tu t'handicapes plus à les mettre qu'à pas les mettre. Hein.
Ouais, non, mais Sly, on va parler maintenant un peu de l'adversaire. J'ai vu la cartographie des résultats avec leur nouveau coach. Est-ce que ça aurait été un exploit de gagner quand on voit la performance des Lyonnais, Sly ?
Moi, je pense que ça aurait été un très bon résultat de gagner. Parce qu'il ne faut pas comme on vient de parler de notre effectif. Qui est restreint au niveau Ligue 1. On a un banc de Ligue 2, hein, quasiment, à part Kadewere qui ne pouvait pas jouer hier pour des raisons contractuelles. Mais quand tu vois l'effectif de Lyon, ils ont recruté des pointures cet hiver. Sur le papier, on n'est jamais favori, quoi. Moi, j'étais encore scotché quand j'ai vu notre début de match. Alors, le tout début, il n'a pas été bon. On s'est fait un peu balader pendant 10 minutes. Après, ils ont retrouvé leur marque. Et quand je vois Matisse qui nous replante un but, je dis, oula, c'est le Pérou, c'est le Nirvana. Mais je savais, moi, je me doutais qu'on allait souffrir. Ça aurait été très dur à garder ce match. Sur le papier, Lyon, au niveau effectif, ils sont nettement
au-dessus. Je pense que tu as raison, hein, parce que tout à l'heure, on parlait en off de Gwen. Il faut savoir que le budget Mercato de l'OL avant les prêts qu'ils vont prendre, c'est le budget du club. Ils ont dépensé 75 millions d'euros cette année en budget Mercato, avec les options d'achat sur les joueurs arrivés en janvier, on arrive à 100 millions. Et le budget du FC Nantes, c'est 75. Donc on boxe clairement pas dans la même catégorie. Ouais, Gwen.
Oui, bah oui, je voulais réagir sur le off qu'on a eu tout à l'heure avant le Space. Évidemment que c'est pas comparable, tu vois. Lyon, Je te dis, je connais pas le budget mercato de l'été dernier. Plus là, avec le budget dont tu viens de parler.
On arrive à ça, Gwen. Hein. On n'arrive pas loin des 100 millions d'euros avec les prêts payants.
Là. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est la valeur. Enfin, c'est même pas. C'est plus que la valeur du club de Nantes. Les mecs, ils vont mettre ça, tu vois. Mais moi, je suis pas trop d'accord. Je sais plus. C'est Sly qui a dit qu'on avait un effectif de Ligue 2
sur le banc,
Non. Ah oui, d'accord.
Ok. Bon, en tout cas, bon, on espère que les joueurs vont vite se remettre de ces entames. Donc, on va arriver sur l'arbitrage. Il y a eu beaucoup de messages sur Twitter. C'est parti un peu dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai pas envie trop de rentrer dans ça, mais on va quand même énumérer les faits. Kylian, on va recommencer par toi. Coup de coude de Lacazette. Donne-nous ton sentiment sur cette action.
Alors pour moi c'est rouge sur l'action, pas juste le fait que Zézé est blessé, mais le fait que quand il saute, Lacazette va mettre le coude, et donc ça met vraiment en danger l'intégrité physique du joueur. Donc pour moi il y avait pas vraiment de question là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi sur Twitter notamment en disant que c'était un duel aérien, ça faisait partie du jeu, mais moi je trouve ça quand même un peu limite. À partir du moment où l'arcade sourcilière est pétée, faut quand même se remettre en question. Et puis Lacazette l'a très bien dit. Il a dit qu'il avait été chanceux, on va dire, de ne pas écoper d'un carton rouge là-dessus. Donc il est au courant de ce qui s'est passé. Il est au courant que ça aurait pu mériter rouge dans certains cas. Donc si on parle que de cette action, je pense que c'était un facteur à prendre en compte. Et je pense qu'après, les joueurs sont totalement sortis de leur match. Donc ouais, c'était compliqué.
C'est pas excusable hein, de sortir du match parce que l'arbitre ne met pas un carton rouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un veut rebondir sur le coup de coude de Lacazette?
Moi je vais rebondir. En fait, je me suis donc chauffé avec quelques Lyonnais hier soir. Pourquoi? Parce que les mecs, en fait, je leur ai dit, vous auriez pu gagner 3-1, mais à la régulière. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de défoncer nos joueurs. Et puis ensuite, voilà, on sait que Lyon est un grand club, que Lyon, en fait, a le bras un petit peu plus long à la Ligue que Nantes. Alors, je me rappelle que la dernière fois que j'ai dit ça, c'était déjà contre Lyon. Et on avait crié au scandale. Je me rappelle sur Twitter, j'ai reçu quelques messages. Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc de complot? Tu pètes les plombs, machin. Pas du tout. C'est juste que Aulas, en fait, il a plus de poids que Kita. Faut quand même savoir que si un jour Kita fait une turlute à Aulas, vous ne serez pas surpris, puisque Kita rêvait de faire le même projet que Lyon à Nantes.
C'était pas foncièrement idiot. Hein.
Non, mais bon, après, déjà quand tu veux copier la vision globale d'un club où je te dis tu pourrais faire une turlute au mec tellement tu le kiffes, ça veut dire en fait que déjà, tu n'as pas de vision. Donc, non seulement, Kita, c'est pas un spécialiste du football. Tu vois, c'est plutôt une carpe. Bon, vous avez compris, hein, on est dans le monde des poissons ce soir. Mais en fait, le truc, c'est que, je te dis, je pense que Kita, c'est un très, très bon businessman. Hein, malheureusement, il faut le reconnaître. Voilà. Le mec, il vient de vendre sa boîte des centaines de millions d'euros.
On ne peut pas lui enlever ça, on est d'accord.
Non, mais tu vois, il était déjà blindé avant. Là, il est encore plus blindé. Donc forcément, quand tu viens, je te dis, de vendre ta boîte plus de 500 millions d'euros, forcément, t'as plus les mollets qui passent le tunnel de la Beaujoire. Donc c'est compliqué parce que le mec pense qu'il est dans le vrai et que, j'ai vu l'interview lunaire là, avec Repin, avec Jacques Vendroux, qui est aussi ridicule que l'interview qu'il a faite de Kita. Mais voilà, en fait, le mec, je te dis, il croit qu'il est dans le vrai. T'as l'impression, j'ai vu des commentaires où on se dit, putain, le mec est bourré, ou il y a un truc. Mais non, en fait, il est persuadé. C'est la vieille génération. Hein. Je sais pas quel âge il a, Kita, mais il a plus de 70 ans, non?
73, je crois. Voilà, ouais, bon. Mais en fait, on ne lui fait pas à lui et puis il n'a pas de leçon à recevoir des autres. Je pense que c'est ça.
C'est ça. Donc, en fait, le problème, c'est que comme c'est lui qui a le chéquier et que le Franck apparaître dans la neige, il fait pas grand chose. Mais tu vois, c'est ça qui est compliqué en fait.
Bah ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et pour revenir donc sur les décisions arbitrales, on a un peu parlé donc de, est-ce qu'il y a quelque chose à l'un d'entre vous veut revenir sur le coup de coude de la Lacazette, que ça soit Kylian ou Sly ou Louis. Louis, vas-y.
Bon, non, mais très rapidement, c'est même pas lié à tout ce que peut dire Gwen, mais au-delà de ça, c'est là où tu te dis que moi, je me rejoins même pas une théorie de ce que c'est volontaire ou pas. C'est simplement une addition de choses qui fait que c'est jamais en notre faveur. Et le huis clos joue aussi, quoi. C'est-à-dire que je pense que si t'as 35 000 personnes qui hurlent au scandale avec un mec qui saigne par terre, tu réfléchis davantage. Là, il est à huis clos, tu as pépère dans son fauteuil, il choisit un peu de faire ce qu'il veut. Tout nous est plus favorable. Et avec un monde plus favorable, dans un monde plus favorable, on peut avoir 10 points de plus, tu vois. C'est la loi de la Ligue 1, c'est terrible. La Ligue 1, c'est les arbitres ont énormément de poids sur les résultats.
Sur les résultats, ouais. Et je vais te laisser rebondir, après je te laisserai intervenir, Sly. Sur la deuxième action un peu litigieuse, la semelle de Lacazette sur Abline. Alors le ballon est parti, hein, on est bien d'accord, hein, au moment de la frappe d'Abline. Mais il prend une semelle, il reste par terre, je ne sais même pas s'il y a eu une consultation de la VAR. Est-ce que tu as souvenir de cette action?
Ouais, non, mais je m'en souviens bien. Après, je serais le premier à dire que c'est léger, que tu ne veux pas siffler pénalty là-dessus. Mais moi, ce qui me gêne plus que les décisions en soi, c'est encore une fois, mais comme dit Comboire, c'est le fait qu'il aille pas voir l'outil, qu'il ne s'en serve pas, qu'il aille pas voir la VAR. Le mec, il sait qu'il y a une action polémique déjà sur Zézé. Derrière, il y a quelque chose de polémique sur Abline. Il prend pas la responsabilité d'aller juste regarder. Enfin, je trouve que tout est très, très mal utilisé, quoi. C'est assez, assez terrible. Et là où je peux rejoindre un peu Gwen, c'est que j'ai l'impression quand même que c'est plus utilisé avec certains qu'avec d'autres. Mais après, ça, c'est la loi du foot. Hein.
Ok. Slide, vous voulez rebondir ?
Louis, regarde en fait ce qui se passe avec ce qu'a dit le coach de Reims concernant son coach et la situation du coach de Lyon, où en fait Lyon ils ont
une dérogation.
Voilà, mais les mecs sont protégés de toute façon. Je te dis, Lacazette il blesse 3 joueurs de Nantes, le mec il prend juste un jaune. Et après t'as les médias, je te dis comme là Amazon, enfin Prime hier qui dit Lacazette c'est le général. Mais t'es là, mais vous êtes sérieux les gars? En fait, le truc, je te dis, c'est les dés sont pipés d'avance, quoi.
Non, mais t'as raison.
Donc, je te dis, après, on vient pas faire les pleureuses, parce que je me suis fait insulter hier sur Twitter. Ouais, je vous fais des pleureuses. Mais non, parce que Lacazette reconnaît qu'il aurait dû prendre un rouge.
Ouais, non, mais okay, c'est sûr.
Limite, il était surpris de pas le prendre, tu vois. Je sais pas si t'imagines. Mais, bilan de l'opération, c'est eux qui nous ont niqué, en fait. Nous, on perd 3 points. Moi, je me suis dit... Moi, je me disais qu'on allait perdre, tu vois, qu'on allait se faire balayer parce qu'ils étaient pleins de balles et qu'ils jouent l'Europe. Tu vois, ils vont y aller, tu vois. Ça. Ils sont dans cette dynamique, je pense que ça va. Ils ne sont pas dans la dynamique de Marseille, tu vois, je pense qu'ils vont jouer l'Europe. Mais ça veut dire que nous, en fait, on pouvait peut-être prendre, comme l'a dit Sly tout à l'heure, moi, je te dis, à la fin de première mi-temps, je me dis, putain, si on prend 3 points, c'est magique. En fait, après, tu dis, il y en a 1-1. Je dis, bon, en même temps, si on prend 1 point contre Lyon, c'est pas si mal. Bon, après, voilà, on prend l'eau et on en prend 3. Mais si tu veux, j'ai trouvé que il y avait une possibilité. Bon, elle nous est passée sous le nez. Encore une fois, on s'est fait avoir.
Ouais. Sly, tu voulais rebondir. Et je veux également que tu me donnes ton avis sur le tacle du défenseur lyonnais sur Kozza. Qui est là encore une fois, pas loin du rouge orangé, quoi. Enfin, jaune orangé, pardon.
Plus sur l'arbitrage, je voulais rebondir. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, pour moi, c'est rouge. Il y a pas photo. Mais justement, j'aimerais bien qu'il y ait VAR. C'est le débat sur l'arbitrage, quoi. Faudrait que ce soit obligatoire que l'arbitre aille voir la VAR. Quand il y a un blessé, quoi, systématiquement, quoi. Donc, puis vivement le jour qui arrivera où il y aura une sonorisation des débats entre l'arbitre et la VAR pour qui justifient leur décision et qui nous disent pas qu'ils voient pas la même chose que nous, quoi. Parce que apparemment Antoine Comboiré dit que le troisième arbitre a eu le rapport de la VAR entre guillemets des gars de la VAR qui ont dit que c'était un coup d'épaule. Et alors que, on a tous vu qu'il n'y avait pas d'épaule là-dedans, mais un geste d'anti-jeu avec le bras en arrière et le coude bien dans la figure, ce qui menace l'intégrité du joueur adverse et qui voit une exclusion. Donc, moi, je trouve que bon, c'est le chantier de l'arbitrage qui
est désastreux. Ouais, c'est désastreux.
C'est déjà l'arbitrage au football, c'est minable. Alors, en France particulièrement, je ne suis pas trop les autres championnats, je ne sais pas si c'est comme ça, mais là, tous les dimanches, on a des scandales, entre guillemets, sur 2-3 matchs.
Ouais, c'est sûr. Donc, et sur le tacle sur Kozak, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, excuse-moi, le tacle sur Kozak, là, je l'ai un peu.
Alors, c'est Kozak qui remonte, qui est en train de passer la ligne médiane, et il se fait attraper par derrière par un Lyonnais. Il se fait choper la cheville et tacle par derrière, en fait.
Bah, tacle par derrière, à une époque, c'était rouge, ça aussi. Bah, surtout quand il y a la Coupe du Monde, bizarrement, après, on oublie. Ça retombe aux oubliettes, on revient dans une mauvaise normalité. Bon, je pense que ce que dit Gwen sur Lyon, ça ne me surprendrait pas quand même que dans les coulisses, le père Aulas, il discute à droite à gauche pour bien faire comprendre.
On est d'accord. Tu voulais rebondir, Kylian, je veux bien ton avis sur le tacle, tu as peut-être plus l'image en tête.
Ouais, justement, pour revenir sur le tacle sur Kozak. Là encore, c'est limite. Et puis, comme sur certaines actions du match, je pense que la VAR peut avoir ce rôle d'appeler l'arbitre pour aller voir les images. On l'a vu sur la faute de la Lacazette. Il y aurait eu le temps d'aller voir les images pendant que Zézé était au sol en train de se faire soigner. Et puis, pareil, pour le tacle sur Kozak, je ne sais pas exactement qui c'est qui vient tacler Kozak, mais on voit très bien qu'il est en retard, qu'il veut empêcher la contre-attaque nantaise. Donc pour moi, c'était jaune-orangé aussi. Et puis on parlait tout à l'heure de l'action sur Abline, le pied de Lacazette sur sa cheville. Là, je pense que c'est, comme l'a dit Louis, je pense que c'est un peu plus discutable. Là, je pense que ça aurait pu être un simple jaune parce que il a pas la possibilité de rattraper le ballon après. Et je pense que le fait qu'il ait déjà pu tirer avant va amener l'arbitre à ne pas considérer ça comme une faute flagrante.
Ok, Louis, tu voulais rebondir?
Oui, en tous les cas, c'était. Alors évidemment, comme le disait un peu cela, il y a des choses à changer dans l'arbitrage qui est cataclysmique, notamment le fait, toi, Jean-Charles, qui est un peu amateur de NBA. Tu sais que moi, j'aimerais bien qu'on puisse demander au moins une fois une équipe qui puisse forcer l'arbitre à aller voir quelque chose. Tu vois, le challenge, le fameux truc où tu peux dire à l'arbitre, ouais, moi, je veux que tu ailles voir. Tu vois. Qu'on puisse aussi décider. Mais au-delà de ça, malgré tous les outils que tu peux même mettre la sonorisation, les arbitres, ils te montreront toujours un truc pour justifier ce qu'ils ont fait. Ce qu'il faut, c'est dans tous les cas, c'est qu'il y ait des meilleurs arbitres et améliorer la formation, les sanctions, que les mecs soient beaucoup plus professionnels et beaucoup, beaucoup plus forts. Dans tous les cas, même si on met d'autres outils à leur disposition, quoi.
Pas forcément améliorer les arbitres, mais je pense améliorer l'utilisation de la VAR.
Il y en a vraiment qui sont vraiment nuls. Il y en a, ils ne devraient même pas être là. Le Texi va quand même arbitrer Real Madrid, Manchester City, mais c'est lunaire. Il y a des mecs qui sont juste nuls. Tu sais, l'outil de la VAR, pour moi, il n'est pas mauvais. C'est ce qu'on utilise très très mal.
Oui, c'est l'utilisation qu'on en fait, forcément. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut qu'il y ait un peu plus de cohérence et qu'il y ait des règles un peu plus clair sur l'utilisation de la VAR et sur quand est-ce qu'un arbitre doit aller voir les images et quand est-ce qu'il peut être appelé. Donc ça, c'est sûr. Après, il y a des bons arbitres en France. Forcément, il y en a des plus mauvais que d'autres. On en a connu pas mal sur les matchs de Nantes. Mais pour moi, c'est surtout réformer l'utilisation de la VAR pour que les décisions soient mieux.
Bon, on va fermer ce point sur l'arbitrage. Pour les auditeurs et ceux qui vont nous réécouter, on tient à dire qu'on ne dédouane absolument pas l'entame désastreuse et la baisse de mentalité des joueurs qui sont fautifs. Néanmoins, il nous semble important, et je pense que les intervenants sont d'accord avec moi, d'évoquer ces faits de jeu qui pèsent fondamentalement sur le résultat. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça, parce que j'entends beaucoup de gens qu'à Nantes, il n'y a que des pleureurs ou des pleureuses. Mais c'est vrai que ça nous plombe, et on est une équipe moyenne, et une équipe moyenne n'a pas besoin d'avoir encore plus la tête sous l'eau avec ce genre de décision. Je vais même rebondir, il y a même des équipes très fortes, je pense à la remontada, là on est dans la semaine d'un Barcelone-PSG. Le PSG, ils ont joué à 12 contre 11, ils ont fait caca culotte, ils se sont fait éliminer. Donc même les grosses équipes peuvent avoir de grosses déconvenues. Quoi. Enfin, voilà pour le point arbitrage. On va faire juste un petit tour de table rapide, Gwen. On va repartir sur les points satisfaisants quand même. Cite-moi 2-3 joueurs toi, sur lesquels va falloir s'appuyer sur cette fin de match, notamment par rapport au match d'hier. Quoi.
Il faut que je te sorte des joueurs à nous là.
Ouais, on peut aller. Je te mets sur de la piste. Est-ce que tu crois qu'Abline faut perdurer? Un Lafond qui a l'air de revenir mieux, par exemple.
Ouais. En fait, t'as un peu cité deux joueurs dont on peut parler. Alban Lafont, il en a quand même sauvé des belles hier, quand même. Après, je trouve que Ablin, il est quand même plein de balles, le mec. Hein. Donc, je trouve que c'est bien qu'il soit associé à Mohamed. Bon, à Mohamed, je trouve qu'il en a raté quand même 3 hier. Hein. Et puis après, je voulais juste te dire un truc sur la... le fait que les joueurs à Nantes soient concernés par ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Je trouve que sur la deuxième, putain, tu dis, mais on sait la kermesse, quoi. On est aux fraises, mais sur toute la deuxième, je trouve que, putain, c'est impressionnant. Dans le placement, notamment, vous avez qu'à regarder les deux derniers buts de Lyon. Sincèrement, je ne sais pas où on est, mais on n'y est pas. Et je voulais juste te dire quelque chose. Je crois pas qu'on l'ait dit en space, mais vous avez peut-être vu l'info passer sur Télé Nantes sur le fait que depuis qu'Amboire est là, ça va en dire long en fait sur la motivation et sur ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait les joueurs de Nantes souvent arrivent en retard à l'entraînement. Ok. Et que Antoine Camboire, il a dit, ben maintenant, déjà, vous allez tous arriver à l'heure.
Voilà. Non, mais le point que tu soulèves, ça en dit long. Ouais, ouais,
sur le respect. Alors, je parlais de l'institution nantaise au dernier space, sur le fait d'avoir un minimum de respect pour les. Bah, déjà, je sais pas si tu vois, toi, dans ton boulot, si tu arrives en retard, à chaque fois que tu bosses. Ton boss, il va dire, attends mec, t'es gentil, l'heure, c'est l'heure, en fait, tu te pointes à l'heure, quoi. Là, non, c'est non, pas parce qu'un mec gagne 150 000 euros par mois que le mec, il doit arriver quand il a envie, en fait, avec ses super bagnoles en mode
Non, mais Porsche, t'as tout dit, Gwen, hein. t'as tout dit, il n'y a pas besoin de s'épancher là-dessus, c'est parlant comme propos. Ouais, et donc, au niveau des joueurs, donc Lafont, Ablin.
Lafont, Ablin, et je vais mettre Mohamed... pour qu'on ait une perspective positive pour le prochain match.
D'accord. Ok. Tu voulais réagir, Kylian ?
Je peux laisser la parole à Sly. Ça fait longtemps qu'il a la main levée, donc.
je crois qu'il l'a laissé appuyer depuis tout à l'heure, Sly. C'est ça, non ?
J'ai un petit bug. J'appuie puis tu me passes la parole, mais ça reste levé.
Vas-y, Kylian. Après, on enchaînera sur les joueurs.
D'accord, pas de souci. Bah alors du coup, comme vous les avez cités, notamment Mathis Ablin, je trouve que Comboiré a réussi à lui ramener la confiance qui lui manquait depuis le début de la saison. Et je trouve aussi son association avec Mostafa Mohamed très intéressante. Donc on le voit par exemple sur le but qu'il met hier, il y a Mostafa Mohamed qui va attirer les défenseurs pour qu'Ablin se faufile et puisse mettre sa tête. Donc je trouve l'association assez intéressante. Après, je pense que si on le sort de cette association avec un autre attaquant, il aura peut-être un peu plus de mal. On l'a vu en deuxième période, lorsque Mostafa Mohamed est sorti très tôt, on avait un peu plus de mal à le trouver quand il était seul en pointe. Donc pour moi, pour les prochains matchs, il faut reconduire l'association avec Mostafa Mohamed qui a été vraiment intéressante. Sinon, je voulais parler aussi de Moussa Sissoko, parce qu'on en parle depuis quelques matchs, et puis même depuis Gourvennec, c'était vraiment le seul joueur au niveau, selon moi. Et là, sur les deux derniers matchs, dans un rôle un peu plus offensif, en 8-10, en tant que premier joueur à effectuer le pressing, on va dire, je le trouve assez intéressant, et je pense que c'est aussi quelque chose sur une chose sur laquelle il faudra s'appuyer pour les prochains matchs.
Ouais, là-dessus, je te rejoins, même si je l'ai trouvé un peu moins fringant que les dernières prestations. Louis, je vais te lancer sur Mollet, parce qu'on a parlé des joueurs. T'en as pensé quoi, toi, hier ? Est-ce que tu... Moi, j'aurais milité pour que Traoré joue, hein, je t'avouerais. Parce qu'avec les grands gaillards qu'on avait derrière, là, c'était pas la grande rapidité entre Caleta-Sar et l'anglais. Là.
Bah, deuxième mi-temps était plus mitigé, effectivement, mais comme toute l'équipe, maintenant, moi, je trouve qu'il y a une première mi-temps très intéressante, il fait un match à Nice très intéressant. Pour moi, je le sors jamais du 11. Hein. Pour moi, il dépose une galette sur Ablin. Voilà, c'est un joueur quand même décisif, hein, qui a quand même des belles stats cette saison pour un joueur qui n'a pas non plus joué énormément. Moi, je trouve que c'est un joueur encore important. Et là, tu me dis de sortir des joueurs importants. Ouais, comme je t'ai dit, quoi, le 11 de départ avec peut-être 2-3 joueurs en plus qui sont vraiment importants dans cette équipe. Mais Mollet, pour moi, tu ne le sors pas spécialement. En tout cas, au milieu de terrain, quand tu vois
la fébrilité qu'on a sur le banc, à part Moutoussamy d'ailleurs, il n'y a même personne, tu ne peux pas forcément te passer de ces joueurs-là pour moi.
D'accord. Sly, est-ce que tu voulais rajouter un peu des éléments sur les joueurs ?
Ouais, bon, bah, évidemment, moi je ne suis pas d'accord avec ce que dit Louis sur Mollet, sur ses stats, mais bon, je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà dit. Moi, je voulais reparler de Sissoko aussi, qui est magistral maintenant au milieu de terrain. C'est un taulier. Hein, puis, ouais, il joue presque en 10. Sur notre but, c'est lui qui reprend la. Il est à gauche sur le terrain, il est très bas sur la gauche, il remonte le ballon. Il crochette, il repique au centre, il renverse sur la droite, et puis bon, bah, ça arrive sur Mollet qui met le caviar à la Blin. Moi, je dis, c'est Sissoko, là. Heureusement qu'il est là, même. Heureusement qu'il a ce niveau en ce moment, clair, parce que sinon, clair. Je pense qu'on aurait des problèmes. À Blin, bon, bah, il poursuit, ça remonte tada à lui, entre guillemets. Donc, fabuleux de la tête, impeccable. Quand il arrive à être touché de la tête, il met le ballon où il veut. Petit filet, au ras du poteau, c'est efficace. Et puis, dernier petit chouchou, moi, c'est un gars qui ne fait pas de bruit, mais c'est Amiens, latéral droit, solide. Il fait des matchs, des très beaux matchs. Même de temps en temps, il se lance sur l'aile, il dribble. Moi, je trouve ça
très bien. Surtout qu'il avait un client hier. Hein.
Ouais, il est à Nice aussi. Enfin, Nice jouait moins sur la gauche, en tout cas en première mi-temps. Mais non, il est très solide. Son placement est impeccable. Et puis même, il a du ballon. Il peut partir en dribble, en contre-attaque. Mieux que certaines personnes dont je dirais le nom qui sont rentrées hier, qui sont soi-disant attaquants.
Ouais,
bon.
Tout à fait. Ouais.
Et donc en latéraux, hein, même Kozza. Bon, Kozza, il est un. Alors Kozza, je pense qu'il est peut-être desservi parce qu'il a un petit gabarit. Peut-être il se fait peut-être plus bousculé, mais il se défend très bien, Kozza aussi, de son côté.
Ouais, c'est pas latéral gauche de formation, c'est ça son principal problème, je pense.
Ouais.
Tu voulais rebondir, et puis après on enchaînera sur un autre sujet. Vas-y, Kylian.
Ouais, je voulais rebondir. Bah, justement, comme le disait Sly, Amiens, très intéressant. Déjà, contre Nice, il me semble que c'est lui qui met la passe décisive pour Ablin. Et puis, sur les deux matchs, il avait de gros clients. Contre Nice, c'était Boga, il me semble. Donc, l'Ivoirien qui était quand même en pleine forme, même si Nice allait moins bien. Mais voilà. Et puis, hier, il avait Benrahma qui était aussi sur des très bonnes performances. Donc, ouais, je l'ai trouvé assez bon, comme tu le disais. Et de l'autre côté, Kozza, oui, c'était un peu plus compliqué. On l'a aussi vu un peu plus en difficulté quand Cherki est rentré, notamment. Mais je le trouve aussi assez consistant et assez intéressant pour le côté gauche nantais.
D'accord. Moi, je vais compléter juste par rapport à Mohamed. Je vais rebondir un peu sur ce que disait Gwen. Mohamed, il est tellement précieux dans le jeu. Alors, c'est parce qu'on lui demande en priorité, mais il a fait remonter le bloc, il a obtenu des fautes. Sur les corners défensifs, les actions défensives, il est là. C'est sûr que bon, ça frappe du gauche. Il doit faire mieux. Après, il est sur deux angles fermés où il fait le poteau. Là. Mais bon, Mohamed, ouais, j'ai hâte de le retrouver avec un ballon, un vrai ballon, là, où il va pouvoir planter un but. Quoi, parce qu'il fait vraiment, du bon boulot en ce moment. Quoi. Il est dévoué pour l'équipe. Gwen, tout à l'heure, parlait un peu de la place de l'OL. On va changer de sujet avant de parler du match du Havre. Il parlait de la place de l'OL sur le paysage du foot français à l'heure actuelle. Moi, j'ai envie de vous faire réagir sur quelques petits chiffres que j'ai retrouvés. Allez, je vais interroger Louis. Louis, au niveau des affluences, est-ce que tu as une idée aujourd'hui où est situé le FC Nantes dans l'Hexagone au niveau de son affluence en spectateur moyen et en taux de remplissage?
Bon, on doit être assez haut quand même. Taux de remplissage, je sais pas, c'est compliqué quand t'as des gros stades, que c'est dur. Mais par rapport au nombre de supporters, on est pas mal, hein, je pense. Alors, je sais pas où on est.
Bon, je vais te la donner, la moyenne. On est à 30 086.
Ah, c'est énorme.
Pour un taux de remplissage de 85%. Alors, en plus, sur les taux de remplissage, je crois qu'ils ne déduisent pas les matchs à huis clos ou les tribunes fermées. Et aujourd'hui, on est la sixième affluence de France. Ça te fait réagir comment, ça?
Bah, c'est pas compliqué. C'est que, bon, alors, il y a tout un aspect derrière ça qui est bien plus important économiquement en termes de la région, de son attractivité économique, etc. Mais je me dis quand même, comment tu peux ne pas construire un club plus fort que ça, avec tout ce que t'as, l'histoire que t'as, les traditions que t'as, les gens amoureux de ce club, même les supporters, les recettes billetterie, maillots, tout ce que tu peux avoir à ce niveau-là.
on a un public aujourd'hui, et même une fondation, un club, qui est bien plus haut que ce qu'on est au classement et que ce qu'on est en Ligue 1. Et moi, encore une fois, je l'ai toujours dit, il y a bien pire que Valdemar Quita, donc moi, je ne serais jamais parti de ces antiquités à mort, parce qu'on peut avoir encore pire, mais on pourrait avoir tellement mieux. Et c'est terrible de se dire qu'il n'y a quand même pas un gars qui se dit « Putain, il y a quand même un truc à faire avec ce club, quoi. » Parce que franchement, bah, on offre des choses, quand même, je trouve. Hein.
Donc, je vais juste préciser les villes qui sont devant nous. Je ne vais pas parler de clubs, mais vous les identifierez, bien évidemment. Il y a Marseille, Paris, Lyon. Il y a Lens, qui est un épiphénomène au niveau de l'affluence. Et à Lille. Donc, c'est sur les 5 villes que je viens de citer qui sont devant nous en affluence et en taux de remplissage. Il y a 4 villes qui sont plus grosses que Nantes, hormis Lens. Je vais parler d'une deuxième stat, toujours sur ça, des réseaux sociaux, Gwen. Toi qui adore Twitter, Facebook. On était, à ton avis, on est combienième sur 18 au niveau de la Ligue 1 sur le nombre d'abonnés, ce genre de choses, les retweets et ainsi de suite.
Tu veux dire avec nos supporters et tout?
Oui, ouais, tout à fait.
Bah, on doit être bien puisque. Enfin, je sais pas, moi je trouve que.
Allez, 8e on est. Voilà. Maintenant, on commence.
Putain, j'aurais dit même quand on était plus haut.
Très étonnant, Monaco est 2e. Alors, me demande pas pourquoi, mais c'est un truc lunaire. 8e.
Il a fait un chèque, le prince Charles, tu penses ou pas?
Peut-être, ouais. Albert.
Albert, pardon.
En vrai, il me semble que Monaco a une très grosse communauté, donc on le voit pas forcément à domicile, mais ils ont, parmi les meilleurs parkages de France notamment, ils ont une grosse, grosse communauté qui se déplace, donc même si ça se voit pas à domicile, il y a quand même pas mal de supporters de Monaco partout en France.
Non, mais t'es déjà allé à Monaco?
j'y suis pas allé, mais bon, c'est pas un déplacement que j'ai envie de faire.
Ah, c'est sympa, t'as l'escalator pour monter en tribune, hein, mais je suis allé plusieurs fois. Et continue après les stats, championnat des tribunes. Allez, je vais interroger Sly. Championnat des tribunes, donc il y a les déplacements, il y a les animations. À ton avis, on est combienième?
Avec le cœur, je dirais premier, vu ce que fait la tribune noire, mais je dis avec le cœur, mais je pense qu'on doit être, dans le trio de tête.
Non, on est sixième. On est derrière le PSG, Strasbourg, Rennes. Alors là, ça fait mal aux fesses. Lens et l'OM. Voilà.
Ouais.
Donc voilà. Je continue sur les statistiques. Hein. Centre de formation, 7e de France. Donc c'est lié au temps de jeu, au contrat pro. Il y a eu un sondage très récemment où on est le 4e club français préféré de Ligue 1. Et pour terminer sur ces chiffres, on est le 9e budget de France. Donc moi, je voulais vous faire réagir par rapport à ça, parce que la place du FC Nantes, j'entends beaucoup qui disent que Nantes n'est pas suivie. Mais moi, ces stats montrent que justement la Ligue devrait nous offrir un peu plus de considération. Je sais pas ce que tu en penses, toi Gwen, par rapport à tous ces chiffres?
Non, mais la considération, on ne peut pas l'avoir avec Quita. Ce n'est pas possible. Enfin, même si je pense qu'il est dans la Ligue, Quita, il n'est pas dans le conseil d'administration, il n'y a pas un truc comme ça?
Si.
Bon, en fait, voilà, c'est-à-dire que s'il y avait une fondation à la Ligue, il mettrait un peu d'oseille, tu vois, histoire de se faire bien voir, mais malheureusement, ça ne marche pas trop comme ça. Non, mais après, je trouve que là, même dans les classements que tu as cités, je trouve quand même qu'on a un public qui est quand même exceptionnel. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord sur ce qui se passe quelquefois en tribune Loire et tout ça. Moi qui vais régulièrement à la Beaujoire, je trouve que voilà, ça fait partie du folklore et du spectacle qu'il y a à la Beaujoire. Moi là-dessus, ma position, elle est que je suis à fond derrière les animations qui sont faites.
D'accord.
Parce que je trouve que mais en fait, je te l'ai dit un peu en off. On est en train de dire, ça va au détriment de tous ceux qui sont abonnés, des gens qui vont au stade, des gens qui sont à avoir des buvettes et tout ça. Mais je pense qu'en fait, c'est l'euphorie en fait de ce que fait la tribune Loire qui représente un peu le stade à chaque match.
J'entends, mais après, bon, il y a des règles aussi, hein, qu'il faut respecter. Mais bon, après, c'est un vaste débat. Louis, toi, tous ces chiffres te laissent un peu sur ta faim par rapport à ce que tu disais. C'est vrai que Gwen a identifié notre principal problème, hein, qui est l'actionnaire. Toi, ces chiffres, ça ne donne pas de l'espoir, justement. Et moi, ça me dérange encore une fois que ces chiffres ne donnent pas un peu d'eau à notre moulin pour être plus considérés en France, quoi.
Bah oui, d'en être plus considérés, encore une fois. Moi, je pense que tout est une question de fric. Aujourd'hui, en Ligue 1, etc., faut pas se mentir, hein, le sport, c'est que ça passe quand même après. Et aujourd'hui, je pense que Nantes n'a pas l'impact économique pour justement être plus considéré. Ça passera notamment, ça pour le coup, par un actionnaire plus riche. Alors c'est fou de te dire ça, mais le foot est devenu tellement un sujet d'argent que même Valdemar Quitta, qui vend des boîtes, qui avoir un capital à 1 milliard d'euros, n'arrive pas à rivaliser avec d'autres grosses puissances. Mais effectivement, moi, encore une fois, je te dis, c'est dommage que des gros investisseurs, on va dire fiables, ne se penchent pas sur le FC Nantes. Le problème, encore une fois, il est sur la richesse économique de la région, qui apparemment, à ce que je comprends, le Pays de la Loire ne fait pas vraiment rêver par rapport à d'autres régions, peut-être comme la Bourgogne, comme Bordeaux, etc., avec le vin notamment, tu vois, qui peuvent attirer des investisseurs. Nous, tant qu'on n'aura pas de fric, tant qu'on n'aura pas le mec capable de mettre des ronds, comme Lyon peut mettre énormément d'argent, on n'aura pas cette considération. Hein. C'est juste, c'est qu'une question de ça.
Hein. Ouais. Gwen, je vais te laisser répondre. Il y a une question sur là dans les tweets. Est-ce que tu penses qu'on aurait gagné avec un stade plein? Louis parlait de la pression sur l'arbitre, notamment sur les faits litigieux. Est-ce que tu penses que ça nous aurait aidé à gagner si la BL avait été, et le tout stade avait été là?
Ça, je pense que ça change la donne quand même, tu vois. T'as... je pense, je te dis, on a quand même des supporters. Enfin, moi, je trouve que c'est. Ouais, comment dire, ça s'est vu hier, en fait, tu vois. Est-ce que, je te dis, on fait cette deuxième mi-temps, et encore, c'est déjà arrivé, tu vois. C'est déjà arrivé qu'on fasse des mi-temps de merde à la Beaujoire alors qu'on a un super public. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, ce truc-là. C'est-à-dire, là, je te parle, on a parlé d'arbitrage et tout. C'est un truc global, l'arbitrage. En Ligue 1, il y a quand même des problèmes un peu partout avec l'arbitrage. Je trouve que, je te dis, évidemment, on va pas se planquer derrière ce truc-là, mais je trouve que nos joueurs, comme je disais tout à l'heure, ne sont pas suffisamment concernés. Solidaires, je dirais pas ça, mais concernés.
D'accord, ok. Sly, toi, sur les statistiques, t'es un peu sur le courant des copains là, à dire que il y a une mine d'or qui est mal exploitée.
Bon, c'est clair que Valdemar Quitta, c'est une quiche footballistique. Hein, il est là depuis 17 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? On a gagné une Coupe de France grâce à un coach qui lui a dit tu me laisses tranquille, tu rentres chez toi, c'est moi qui m'occupe du foot à Nantes. C'est comme ça qu'on a réussi à gagner une Coupe de France. Bon, une Coupe de France, il faut une part de réussite au tirage et au grattage. On a eu la chance de recevoir sur les matchs décisifs chez nous. On a notre super public qui a poussé pour y arriver aussi. Et puis, bon, il y a un capital sympathie quand même sur Nantes encore en France. Hein. On est quand même un des clubs, le jeu à la nantaise, c'est encore dans toutes les têtes. Enfin, peut-être pas des tout jeunes, mais c'est quand même une institution encore, le FC Nantes en France. Donc quelqu'un qui... Il n'a aucune humilité, Valdemar Quitta. Il se trompe, il fait n'importe quoi, il recrute des joueurs de son côté dans le dos de tout le monde, des joueurs qui n'arrivent pas via des agents envers eux, comme il le faisait avant, il ne le fait plus maintenant, bon, c'est déjà un progrès. Mais bon, il fait des conneries, et il en est fier, quoi. Il a un but... C'est un mégalo hystérique, hein, au niveau du profil psychologique. Le mec, on l'a encore vu son interview, mais il est sur la lune, là, l'interview qu'il a donné à Europe 1, quoi. Il est persuadé de détenir la vérité alors qu'il est nul. Et pourtant, c'est un gars qui doit être intelligent pour arriver à faire du business.
On est d'accord.
Avoir du succès comme ça dans le business. C'est un gars qui est intelligent, mais j'ai trouvé un but de sa personne, quoi. Il reconnaît pas que le football, faut le laisser aller. Il n'est pas à la hauteur. On peut pas être bon partout dans tous les domaines.
On est d'accord.
Même qui que ce soit. Chacun son domaine de prédilection. S'il avait un peu d'humilité et d'intelligence, il laisserait le foot, le club, il a des directeurs sportifs compétents. Bon, il a parachuté son fils au départ, qui apprend le métier sur le tas, tant bien que mal. Mais bon, s'il laissait monter, laisser des gens compétents monter un projet digne de ce nom, mais je pense qu'on a tout pour réussir à Nantes et revenir dans le top niveau du championnat
c'est
de France.
Sûr, c'est sûr. Est-ce que Kylian, toi, tu, par rapport à ce que vient de dire Sly, t'es en phase avec lui, c'est-à-dire qu'il y a tout pour réussir, même sans avoir le plus gros budget de France, parce que bon, on est le 9e budget de France. C'est sûr qu'il nous manque peut-être 50 millions pour être plus ambitieux, mais aujourd'hui, on est un club moyen parce qu'on a aussi des moyens limités et un actionnaire un peu foufou, quoi.
Bah oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit par tous les intervenants. Je pense que il y a cette ferveur historique à Nantes et aussi cette histoire du jeu à la nantaise qui pourrait nous faire basculer parmi les gros de ce championnat. Mais sur l'histoire récente, on l'a vu avec les deux descentes et puis le fait qu'on joue le maintien chaque année, ça paraît un peu compliqué de construire quelque chose et puis d'attirer des investisseurs. On parlait de Bordeaux tout à l'heure qui arrive à tirer grâce au vin. À Nantes, on n'a pas forcément les mêmes ressources qui permettront d'attirer. Donc oui, je pense que ça, combiné au fait que Valdemar Quitta gère d'une manière désastreuse le club depuis plusieurs années, ça va pas participer au fait de nous faire remonter parmi les grands de France.
Alors, en sachant que moi, mon idée, même si Quitta était un peu meilleur, on pourrait pas non plus postuler économiquement avec les mastodontes que sont Lyon, Marseille, Monaco, PSG et Lille. Hein. Moi, à mon sens, c'est un bon Nantes, on finirait entre la 7e et la 12e sans se faire de frayeur. Ouais, Gwen, tu voulais rebondir.
Moi, je voulais dire juste rajouter qu'il a des sous quand même en plus, Valdemar. Ouais, il est pété de fric.
Je pense que madame, elle veut pas que son mari mette plus de sous.
Hein. Ouais. Non, mais t'as l'impression en fait que Quitta, même avec plein d'oseille, c'est un peu une pince. Parce qu'en fait, tu vois, je pense que comme il maîtrise pas son sujet comme son domaine de prédilection, bon, on va pas s'éterniser sur le sujet, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est compliqué pour un mec de dépenser. Je sais pas si moi tu me dis, vas-y, dépense 1 million ou 2 millions d'euros dans un bateau. Bon, bah déjà, je les ai pas, mais tu vois, par principe, tu dis putain, je vais aller investir dans un truc que je maîtrise pas du tout. Tu vois, faut avoir les coronets, c'est-à-dire que lui, il met de l'oseille parce que, bon, il en met un peu, tu vois, mais il met de l'oseille parce qu'il a beaucoup d'oseille, tu vois, c'est-à-dire, si tu lui disais, bon, bah, vas-y, investis dans un cheval de course, là, parce que là, celui-là, c'est un crack, le mec, il va dire, ouais, bah, pas de souci, tu vois, c'est le concours de celui qui pisse le plus loin, un peu, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le 9e budget de France, dans la tête de Quitta. Tu vois, comme c'est lui, il est dans un bis qui est factuel et pragmatique, sauf que le foot, c'est pas du tout ça. Si on était sur un truc factuel et pragmatique, on a le 9e budget de Ligue 1, on doit être 9e.
Oui, non, mais t'as raison.
Quand un truc factuel et pragmatique, le foot, c'est pas du tout ça. Là, en fait, quand on gagne la Coupe de France, le mec se dit, bon, bah, c'est grâce à moi, tu vois. C'est pas le travail d'Antoine Camboiré, c'est pas Blas, c'est pas Quentin Merlin, c'est pas Colomoigny. Non, c'est moi, c'est mon job parce qu'on a mis à disposition des moyens. Mais là, mais mec, en fait, si tu réfléchis bien au budget qu'on avait quand on a gagné la Coupe de France, on avait combien? On avait moins que ce qu'on a aujourd'hui. Hein.
Ouais, le budget a été gonflé pour la Coupe d'Europe.
Voilà. Donc en fait, le mec maintenant va te dire, ah, oh, bah de toute façon, ça sert à rien de mettre de l'oseille parce que quand je mets plus d'oseille, ça marche pas mieux. Mais ça marche pas bien, parce que, mec, t'es complètement à l'ouest.
Mais le débat est très intéressant, en tout cas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura jamais, à moins qu'on ait un Amazon ou un Google qui rachète Nantes ou un Microsoft, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Moi, je réfléchissais l'autre jour sur la potentielle présence en Coupe d'Europe de Brest, notamment en Ligue des Champions. Ils vont certes gagner de l'argent, mais ça peut les tuer, hein. Donc c'est quand même très difficile à gérer. On va arriver sur le match du Havre. Allez Louis, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Toi, le match du Havre, à la vie, à la mort.
Bah, il est primordial, hein, il est capital. Maintenant, encore une fois, je trouve que Combaré fait des belles choses avec
au tout cas, il y a un 11 de départ qui est intéressant. Donc, faut y croire. Hein. Le Havre, c'est loin d'être une équipe imprenable. Faut y croire. Moi, j'avoue que Comboiré m'a redonné espoir en le maintien, que je pensais quasiment impossible il y a quelques semaines. Maintenant, c'est ce match-là pour moi qui est un des matchs charnières. Là, ce match-là, c'est interdiction de le perdre. Tout du moins, si tu peux pas le gagner, au moins tu le perds pas. Mais si tu as la bonne idée de le gagner, je pense qu'on pourra tranquillement se diriger vers une fin de saison pour moi.
Tranquille, ouais, je suis bien de ton avis. Sly, sur ce match au HAC qui sera dimanche à 13h.
Ah bah c'est match contre double, là, ou triple même. Hein. C'est un adversaire direct là, au classement. Ouais, il faut absolument faire quelque chose et même essayer de le gagner. On aura le retour de Kadewere éventuellement en attaque pour performer. Et voilà, et si on arrive à faire jouer Traoré aussi, on a des atouts offensifs quand même, hein, malgré avec le retour de. Enfin, le retour, la renaissance entre guillemets d'Ablin en ce moment, on a des atouts offensifs, hein, et puis il y a toujours Mustapha devant. Donc il y a matière à pouvoir faire quelque chose. Hein, donc c'est sûr, c'est un tournant là pour les prochains matchs, un tournant pour la fin de saison. Ouais.
Kylian ?
Oui, bah moi je pense qu'il faut être un peu plus optimiste et il faut essayer de vraiment aller chercher la victoire parce que le Havre est au même nombre de points que nous, il me semble, et reste sur 6 défaites sur les 8 derniers matchs de Ligue 1. Ils ont même perdu contre Clermont qui est en très mauvaise forme. Donc moi je pense que c'est un match qu'il faut absolument gagner et je pense que sur ce qu'on a vu contre Nice et en première période face à Lyon hier, il y a moyen d'y croire et de prendre les 3 points dimanche prochain.
Bon, c'est une belle passe décisive, donc il y a 3 avis positifs, Gohen. À toi.
Je vais confirmer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a fait 3 belles mi-temps avec Comboiré là depuis qu'il est là. Je pense que on va gagner contre le Havre.
Allez, on va aller les défoncer, désolé ami Havre, mais
non, après tu vois, je voulais juste dire que en dis-moi. Plus, tu vois, comme a dit Sly, Ablin.
On fire.
Voilà. Mais Ablin, il est quand même à pleine balle. Alors qu'on avait Simon, on était un petit peu dans la tête dans le seau quand on nous a dit voilà, faudra plus compter sur lui jusqu'à la fin de saison. Je trouve que là, on limite la casse quand même.
Comme on. Je vais reprendre vos propos, puis on va conclure là-dessus, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose. Mais l'effet Comboiré, on le ressent. Parce qu'on a fait 3 belles mi-temps sur 4. Face à l'OL, c'est pas suffisant. On espère surtout que l'arbitrage. Désolé d'y revenir, mais c'est vrai que ça plombe un peu. Mais il y a des motifs d'espoir, voilà. C'est le mot et l'expression que je trouvais. Donc moi, j'y crois aussi. Il faudra être réveillé, il ne faudra pas être à la sieste. Ça sera l'heure de la sieste, hein, 13h. Il faudra leur rentrer dedans et marquer les premiers et les faire douter, quoi. Voilà, messieurs.
Ouais. Si Valdemar peut prendre quelques joueurs aussi entre quatre yeux à la sortie du vestiaire, on ne sait jamais, c'est peut-être lui qui... Qui a fait renaître Ablin.
On prend n'importe quelle incantation, que ce soit de Valdemar ou pas, en tout cas. Enfin bref.
Notre marabout polonais.
Et ouais. Donc on va remercier déjà les intervenants, Tribune Nantaise qui était présent via Kylian ce soir. On est déçus, mais on n'est pas abattus. Et le mot d'ordre, ça sera combat pour le prochain match. On est avec les joueurs, on est avec eux, parce qu'il faut absolument rester en Ligue 1. Quand on voit encore une fois, on a déjà parlé des exemples comme Sochaux, comme Bordeaux, Saint-Etienne, même si ça va un peu mieux. Mais allez, il faut y croire et on se donne rendez-vous pour le débrief du match dimanche prochain et à la Dante. Et puis bonne semaine à vous en tout cas.
Allez, bonne semaine à tout le monde, à bientôt.
Allez, bonne semaine.
Merci, au revoir.